De nouveau aux Utopiales, nous sommes avec Jean-Laurent Del Socorro, auteur de deux romans et de plusieurs nouvelles. Il a reçu le prix Elbakine de 2015 pour Royaume de vent et de colère, qui est un roman de fantasy historique se déroulant à Marseille pendant les guerres de religion. Alors, c'est un cadre plutôt inhabituel pour un roman de fantasy. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est celui-ci que vous avez choisi?
Peut-être justement parce que c'était un cadre un peu inédit. Moi, je suis très attaché en fait à la matière historique. Tout, que ce soit pour mes nouvelles ou pour mes romans, j'utilise le terreau historique autour de ça. Ce qui était intéressant, c'était de raconter la grande histoire à travers une micro-histoire. On sait souvent, pendant les guerres de religion en France, que la Bretagne était indépendante. On ne sait pas en fait que Marseille a tenté de nombreuses fois dans l'histoire de France d'être indépendante à travers la création d'une république.
Effectivement, je l'ignorais, je l'ai appris en lisant votre livre et c'était très intéressant.
Bah, je peux vous rassurer, donc j'ai habité Marseille, je suis du sud à l'origine, même des Marseillais ne le savent pas dans leur
Ah
propre
bon?
histoire. On est vraiment sur quelques années, hein. C'est une période très courte où Marseille a été une république catholique indépendante, on a tenté de le devenir, parce que c'était une ville très riche. Et ce qui est très drôle d'ailleurs par rapport à ce cadre qui est réellement historique, c'est souvent les gens croient que c'est un élément de fiction.
Oui.
J'ai fait une uchronie, j'ai dit que Marseille était indépendante et tout. Non, non,
Mais
le
enfin,
cadre est réel.
heureusement, effectivement. Moi, ce qui m'a marqué aussi dans votre livre, c'est le fait qu'il y ait des éléments très théâtraux. Il y avait les trois unités de temps, de lieu et d'action. Et comment est-ce que vous pouvez, enfin, pour quelle raison vous avez fait ce choix?
Alors moi, j'ai une formation d'ingénieur agricole, mais je suis diplômé du conservatoire de théâtre.
D'accord.
J'ai été comédien, j'ai travaillé plusieurs années comme administrateur culturel pour des compagnies. Je suis très attaché au théâtre, je suis ce qu'on appelle un gros consommateur de théâtre et aujourd'hui beaucoup de danse aussi également.
D'accord.
Je fais également de la danse. Et c'était un parti pris, mais volontaire, d'intégrer des dialogues qui étaient des dialogues théâtraux. Il y a quelque chose qui est hyper marquant. Donc effectivement, alors sur le point de vue de l'unité de lieu, oui, de fait dans Royaume, ce qui n'est pas le cas dans tous les romans ou tous les récits. Par contre, tous les dialogues ne sont pas réalistes dans le sens où ils peuvent être entendus, ils peuvent être dits à voix haute. C'est vraiment des dialogues de théâtre pour le coup. Un personnage qui est emblématique dans Royaume de vent et de colère, c'est Silas. Il a la fonction du cœur à la fin de chaque chapitre, qui est de rappeler au spectateur, là au lecteur, où on en est. Il faut lire les passages de Silas à voix haute.
Oui.
C'est une tirade de théâtre. Ce sont trois tirades de théâtre dans le
D'accord.
roman.
D'après vous, avoir une formation de comédien, ça a apporté quelque chose peut-être dans votre façon d'écrire un livre?
Alors, je ne sais pas si ça a eu. En tout cas, ça m'a permis d'intégrer une dimension,
Une
de
nouvelle
nourrir voilà, une
dimension, ouais.
dimension, la dimension théâtrale dans
D'accord.
le récit.
Qui a du coup enrichi votre roman. Quelque chose
J'espère, j'espère.
de. J'ai trouvé personnellement. Et du coup, vous me parliez de Silas tout à l'heure, et effectivement, moi j'ai trouvé que c'était un des personnages les plus marquants de ces trois, cinq, six protagonistes qu'on suit. Est-ce que vous avez une méthode particulière pour construire vos personnages? Parce qu'ils sont quand même extrêmement personnalisés en fait.
Ce que je dis souvent, je suis un peu un tricheur parce que un récit, c'est un univers, une histoire, des personnages.
Oui.
L'univers, je prends l'historique, donc je n'ai pas à l'inventer. L'histoire, c'est un récit qui est généralement connu, ou du moins les fils sont connus. Donc en fait, je n'ai plus qu'à travailler sur les personnages. Donc, de fait, j'attache un travail assez important. Donc, premier point. Deuxième point, moi je travaille toujours à la première personne. En termes d'identification, c'est quand même un peu plus simple pour. Et pour moi et pour le lecteur derrière de s'y retrouver. Et l'autre point, on parlait du personnage de Silas, par exemple. Il y avait deux enjeux de personnages dans Royaume. Donc il y a quatre personnages principaux qui vont aborder quatre thématiques différentes. On va avoir Axel, l'ancienne mercenaire, maintenant tavernière. Armand, un personnage en fuite, ainsi de suite. Victoire, Gabriel, l'ancien chevalier. Et deux un peu particuliers qui ne sont pas des personnages principaux, qui sont Silas. Et qui sont le consul de Marseille, qu'on ne voit jamais. Donc il y a un personnage qu'on ne voit jamais qui n'existe que par le regard des autres personnages, et Silas qui n'existe que par trois scènes, qui seront des monologues face publique, et il est taillé, j'allais dire, il est taillé pour fonctionner. Ce qui est drôle, moi je travaille avec des relecteurs. Silas les a beaucoup interpellés. Il y a eu beaucoup de choses qui ont dit ça marche pas, le personnage marche pas. Je savais que le personnage marchait, il y a des retouches que j'ai faites sur d'autres aspects du roman. Mais Silas, il est fait pour marcher. Pourquoi? Il apparaît de façon courte. Il a de l'humour, j'espère que
Il
l'humour
a de l'humour.
et Par rapport aux autres personnages, il y a aujourd'hui une couleur qui est très demandée, notamment dans la fantasy, c'est le personnage politiquement incorrect. Pourquoi, d'ailleurs, après coup, je m'étais fait la remarque, je pense que par exemple que Silas n'aurait pas existé, ou pas de la même façon, si je n'avais pas lu gagner la guerre 10 ans plus tôt.
Ah oui.
Pourquoi? Parce que je pense que ça a été hormis le personnage donc, de gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski, qui nous fait suivre un assassin qui nous le rend sympathique alors que c'est un violeur, un assassin, un traître. Enfin voilà, c'est un personnage très dur. Mais
Effectivement.
qu'il a l'humour et tout ça. Et je pense que cette couleur de personnage politiquement incorrect est aujourd'hui recherchée. Et là, on a un personnage, on est frustré parce qu'on en a peu. Il a de l'humour, malgré tout, il est attachant parce
Cynisme, ouais.
il est en difficulté. Donc on a
Oui.
quand même de la compassion pour lui parce qu'il est
Oui.
assez en difficulté au début du roman. Et il est politiquement incorrect. En fait, il y a tous les ingrédients, sans trop forcer, en
Pour
fait,
nous interpeller, en
pour vous
fait.
interpeller.
Ouais. C'est vrai que
Finalement.
moi, je me sentais très interpellée par ce personnage et il y a eu des scènes très très marquantes avec lui qui. Je ne savais pas si j'allais rire ou si j'allais m'offusquer. Voilà, donc c'est un personnage qui a vraiment beaucoup beaucoup marché avec moi. Il y avait aussi le personnage d'Axel qui est très particulier aussi. Vous avez un attachement un peu particulier pour ce
Ouais,
personnage.
mais
Ouais.
complètement, ouais.
Ouais. J'ai senti qu'il avait peut-être plus d'étoffe que les autres.
Alors, ça me fait plaisir que vous disiez ça. C'est vrai que moi, souvent, le personnage aimé des lecteurs, c'est Gabriel.
Ah, d'accord.
Oui,
Oui, effectivement aussi.
et je sais pourquoi, parce que
Oui.
entre guillemets, les trois autres personnages sont peut-être très forts. Ils ont des fêlures, mais Gabriel, c'est vraiment
Le sort s'est acharné sur lui,
acharné
d'accord.
sur lui. Il a des faiblesses, il les montre. Et les revendique. Il est le plus proche de nous. C'est un personnage très réel, en fait, Gabriel.
Oui,
Les autres, je les ai peut-être
effectivement.
fait, entre guillemets, un peu trop
Un peu surdimensionné peut-être,
surdimensionnés,
mais.
malgré leur petite histoire. Et pour revenir au personnage d'Axel, j'y suis très proche parce que c'est la petite histoire dans la grande, en fait.
Oui.
C'est une histoire de vie. Elle a un problème. Bon, elle s'interroge. J'y suis attaché la dimension du personnage féminin.
Ouais.
Ça interroge la dimension de la
C'est
femme noire, de la maternité. Et à travers elle et à travers un autre récit que j'aime beaucoup, qui est la nouvelle, qui est Gabin sans M à la fin du
Oui.
récit, la violence qui est faite aux enfants. Donc on est sur des thématiques, pour plein de raisons sur lesquelles je suis très proche. C'est vrai que j'ai une certaine tendresse pour le personnage.
Ouais.
Je pense que ça se ressent.
Ce qui m'a beaucoup amusée, c'est que j'ai eu l'impression de lire une histoire après son histoire, qu'elle a vécu des aventures, et que là c'est après l'aventure, après le
Ouais.
roman, après qu'est-ce qui se passe après. Et c'était ça qui m'avait plu.
Mais c'est le point de départ. Il y a eu plusieurs ébauches, en fait, avant l'écriture mentale de ce que ça pouvait être. Le point de départ, c'est-à-dire, on parle toujours du récit, les personnages en construction, la quête, ainsi de suite. Et si on parlait d'un personnage qui a vécu? Et c'était le but d'Axel. C'est vraiment vous avez
Oui,
tout à fait
voilà.
saisi les grandes lignes du personnage. On est vraiment sur le personnage qui, à un moment donné, met fin à, on va dire,
À
sa grande
ça,
histoire,
ouais.
parce qu'elle a son histoire personnelle à vivre. Avec
D'accord.
ses regrets, avec des choix
Voilà, et
qu'elle a du mal à assumer.
c'était très bien rendu, je trouvais.
Ben merci.
Et j'ai une autre question aussi
Oui.
pour vous. Enfin, la magie est très très peu présente dans cet univers. Elle est juste en filigrane, qu'est-ce qu'elle a apporté pour vous? Enfin, qu'est-ce qui vous a permis de faire finalement de
Ben c'est une
votre.
grande question. Est-ce qu'aujourd'hui, si j'écrivais Royaume, ce serait pas finalement qu'un roman historique? La
Ouais.
question se
Oui,
pose
c'est la clé.
vraiment.
Ouais, voilà,
Je
c'est.
pense que, enfin, je suis pas qu'un lecteur de genre, mais je suis quand même un gros lecteur de genre. C'est aussi une façon de revendiquer
Oui.
le fait d'être dans le genre. Je voulais publier un livre qui soit un roman de
Ouais,
fantasy, une
voilà.
fantasy
Se
historique.
laisser un peu sa part d'imaginaire.
Donc du coup, il m'a fallu avoir un élément, mais je déteste de la même façon qu'il n'y a pas de créature, ou je ne voulais pas je voulais quelque chose qui pourrait être réaliste. Donc
Ouais.
finalement, on a quoi? On a une drogue qui s'apparente. C'est quoi? C'est du radioactif qui en
Ouais.
plus est une drogue très sale. Ça reste
Ouais.
anecdotique, entre guillemets,
Ouais.
sur moi.
C'est ce que j'ai trouvé ça très intéressant parce que la magie, souvent dans les romans, c'est montré comme quelque chose d'élevé, de pur, de noble. Et là, effectivement, vous l'avez dépeinte sous un jour sale, comme vous dites, c'est radioactif, on dirait une drogue aussi. Enfin, et ça, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça très intéressant. Comment vous avez eu cette idée, en fait?
En fait, l'idée, c'était justement ça, d'être en décalage par rapport à ce qu'il faisait. Et
Ouais.
aussi, pour répondre à une question qui est souvent compliquée quand on induit de la magie ou des créatures fantastiques, c'est si la magie existe, comment on le dose et comment, sur un univers que l'on crée, Comment on fait que ça déséquilibre pas des forces? Si tout le monde a accès à la magie, ça devient compliqué tout d'un coup dans un élément historique. Voilà, ça devient prépondérant. Des gens qui le font très bien d'ailleurs, cet équilibre-là. D'autres, c'est un peu plus maladroit. Et là, ça permettait de dire si c'est rare, c'est radioactif, addictif, si vous l'utilisez, vous avez vraiment envie de l'utiliser. Donc, ça limite comme le potentiel d'utilisation de l'objet. En plus, j'en fais que c'est ce qui arriverait si ça existait vraiment, je pense. C'est une ressource rare, donc c'est une caste, la religieuse, ça aurait pu être autre chose, qui fait en sorte de garder la mainmise dessus. Hein.
Oui, d'accord. Est-ce que vous avez des sources d'inspiration particulières qui vous ont motivé du coup pour l'écriture de ce roman?
De celui-là? Non, par contre, moi, ce que j'adore, donc c'est une fois que j'ai récupéré l'histoire de. Je brode ma petite histoire dans la grande, sur mes personnages secondaires, j'aime repiocher dans l'histoire. Exemple, un autre personnage qui est Chrétienne Daguerre, qui est un personnage secondaire du récit, qui est une femme qui va être à la tête de la Ligue catholique de Provence, donc de tout le sud. Souvent, les gens me disent, oh là, c'est un peu too much, mais effectivement, elle est à la tête de la Ligue catholique, elle s'allie avec le duché de Savoie, elle est emprisonnée, elle s'échappe, elle trahit. En fait, c'est sa vraie vie. C'est un personnage historique. Et souvent, comme je le dis, les personnages historiques ou les faits historiques passent souvent pour la fiction dans les romans. Mais au cinéma, c'est pareil. Hein. C'est ça qui est très drôle. Si vous voyez, par exemple, sur un autre domaine, sur ceux qui font des cascades, je sais pas, de voitures ou de machin, ils ont tendance à minimiser les effets visuels réellement, parce qu'en fait, en vrai, c'est beaucoup plus impressionnant parfois quand une voiture décolle ou s'encastre dans un mur, ou ainsi de suite. En fait, ils minimisent, sinon ça ferait surnaturel. Chrétienne Daguerre, qui est le personnage historique, ça fait trop.
On l'aurait pas cru, ça.
Ben, en fait, c'est
Effectivement,
ça qui est
oui.
drôle, c'est sa biographie. C'est sa biographie, elle a été. Une femme de pouvoir énorme qui a été emprisonnée, enfin retenue en liberté conditionnelle par son allié, qui s'est échappée. Personnage de roman, personnage qui a existé. Le
Effectivement.
personnage de Gabriel est un personnage diminué d'un personnage historique.
Lequel?
Alors je vais perdre son nom. En fait, l'histoire, donc je ne vais pas tout spoiler, mais donc Gabriel, qui effectivement, son nœud d'intrigue, c'est la perte de ses enfants, terrible. Le personnage historique. J'ai juste transvasé. C'est un des deux enfants qui survit en fait. Le père et le fils aîné meurent. L'enfant va rester pendant toute la nuit de la Saint-Barthélemy sous le cadavre de son frère et de son père. Va rentrer, va être sauvé in extremis. Va rentrer en résistance auprès d'Henri IV. Va être le premier commandeur d'Henri IV. Et vous savez où il sera? Il sera dans la calèche où Henri IV va se faire assassiner. C'est avec lui qu'il sera transporté le jour de son assassinat. Et pareil, vous faites l'histoire de ce personnage, on dit, mais c'est
C'est pas
personnage de
possible,
roman.
ça n'existe pas.
En fait, c'est un personnage réel.
La réalité rattrape souvent la fiction.
Moi, j'adore ça.
Je me suis un peu, enfin, je me suis consolée quand j'ai lu ce passage-là. Je me suis dit, mais non, c'est de la fiction. Ils peuvent pas vraiment être morts. Il peut pas vraiment s'être caché sous les cadavres de son père et de son frère. Enfin, ses deux enfants. Donc c'est vraiment arrivé. Bon. Très bien. Bah, du coup, est-ce que vous avez des projets d'écriture en ce moment?
Alors là, je reviens sur le projet d'écriture que j'avais mis un peu de côté, qui est autour de la guerre de Sécession. On sera sur un récit choral, nombreux personnages, encore plus ancré dans le théâtral, j'allais dire, l'aspect du dialogue. Il y aura des monologues, il y aura beaucoup de personnages, des personnages qui apparaîtront sur une scène, des personnages qu'on verra apparaître en filigrane, et une dimension qui sera fantaisie, mais plus une touche fantastique. Voilà. La première balle tirée de la guerre de Sécession américaine au dernier fusil rendu.
Ben voilà qui promet, du coup.
Merci.
Ben je vais laisser la parole à Pierre-Marie pour l'horoscope chinois.
Effectivement, comme c'est la tradition, un horoscope chinois. On va partir du postulat que l'association imaginaire que nous représentons devant toi a tous les moyens possibles et imaginables et te propose des choses. Nous avons vu que tu avais écrit pour la guerre de religion, nous avons vu que tu avais écrit pour l'Antiquité, nous avons vu que tu allais écrire pour la période, on va dire, moderne. À partir des années 1910, pas avant, si tu avais dû appartenir à une civilisation, laquelle ça serait et pourquoi?
1910. Alors, assez curieusement, je vais répondre aujourd'hui Vienne, autrichien, pour le D'une part, le fantasme du visuel de cette Vienne du début du siècle, et parce que ça va être un pilier au début du XXe, politique, il va y avoir des changements auxquels toute cette partie-là, la Prusse, Vienne, l'Autriche et l'Allemagne vont appartenir. Puis cette Vienne, j'imagine cette Vienne en 1910, avec le fantasme de Freud, Vienne et ses vieilles rues à Calais. Enfin voilà, moi j'adorais y être, j'adorais être là.
Alors tu parles justement de visuel et donc on va partir sur autre chose. Il y a eu énormément d'ouvrages fantastiques qui ont été écrits, qui ont fait fantasmer tous les auteurs actuels. Mmh. On va parler de Frankenstein, on va parler de Dracula, on va parler d'énormément de choses. Et on va partir du principe que ces univers-là sont réels. Dans quel univers, dans quel roman aurais-tu voulu vivre et quel personnage?
En plus là, ça fait tilt chez moi, mais aller à la chasse de Dracula en étant Van Helsing, j'adorerais ça. Faire le vieux Van Helsing serait parfait pour moi.
Pourquoi Van Helsing?
Van Helsing, l'universitaire, la recherche, cette pseudo-science, enfin, la science et la pseudo-science, c'est magnifique. En plus, Dracula, c'est tout l'inverse de Vienne. Si Vienne était clinquant dans la question précédente, j'ai le Dracula, j'ai encore l'image du Dracula qui avait été faite par Coppola, je crois, qui avait été tournée, où c'est très noir, avec ses asiles de fous couverts de vermine. Alors, j'adorerais ça. En plus, je suis joueur, je suis joueur de jeu de rôle, il y a une dimension... d'interprétation qui serait extraordinaire sur Van Helsing, je pense.
Alors justement, c'était la question suivante, mais je vais pas mettre une petite parenthèse. Van Helsing, il a quand même une histoire assez dramatique avant d'être chasseur de vampires. C'est justement pour ça qu'il devient chasseur de vampires.
Je me rappelle plus, parce qu'il perd des bouts de quasiment toute sa famille, non, c'est ça?
Voilà, par les vampires, et puis sa femme qui se fait tuer par Dracula et qui est emportée...
Ah, j'avais oublié ce détail-là. Ah oui, lui aussi, il n'avait pas une vie facile, en fait. J'avais oublié ce détail-là.
Bon, alors justement, tu parles de jeux de rôle, c'est la question que j'adore. Dans les jeux de rôle, on va partir du principe qu'on va garder l'univers Donjons et Dragons un peu expansé. Si tu devais être une classe féminine...
Pourquoi une classe féminine?
Si tu devais t'imaginer une femme...
Ah, une femme, pardon.
Classe, ça serait laquelle?
Aujourd'hui, qu'est-ce que je serais à Donjon? Oh, je suis attaché au paladin.
Une paladine, donc.
Une paladine, oui. Et puis, pas dans les nouvelles versions, anciennes versions. Donc, c'est du loyal bon, pas du neutre bon possible. Loyal bon à l'ancienne.
Un peu fasciste.
Complètement. des règles, on n'en sort pas.
D'accord. Très bien. On a la possibilité de t'offrir une œuvre d'art. N'importe laquelle. Pas de souci de dimension, de prix ou de est-ce qu'elle a été perdue ou pas. Tu peux avoir ce que tu veux. Laquelle?
Ah, ça, c'est plus intéressant comme question. Mais je ne sais pas encore laquelle, mais une des planches originales de Hellboy, de Mike Mignola.
Pourquoi?
J'en avais une, je prendrais la couverture du Troisième Souhait, qui est à mon avis le meilleur album de Hellboy, et même de Mignola globalement.
Qu'est-ce que ça te rappelle? Enfin, qu'est-ce que c'est pour toi Hellboy?
Hellboy, c'est un peu un ovni, parce que à la fois c'est du pulp inspiré, on va dire que tout lien, c'est-à-dire de l'horreur lovecraftienne, mais dans son côté le plus pulp, qui est plutôt très bien fait. Des visuels de couleurs avec ce noir et ces aplats de rouge qui sont magnifiques chez Mike Mignola. Et sur le Troisième Souhait, il a réussi à faire quelque chose d'assez fort, c'est de donner la dimension poétique et intime du personnage de Hellboy, qui est quand même un personnage... c'est un démon visuellement, enfin, c'est compliqué, c'est presque un flic dans les vieux polars américains. Et là, il donne tout d'un coup une dimension poétique, éthérée, où il, à travers cette traversée de l'Afrique et de ses origines, c'est génial. Moi, c'est un ovni littéraire majestueux.
C'est pareil, on a énormément de sous, et on va partir en science-fiction. Ah bah, t'imagines pas tout ce qu'on peut faire dans notre association. Science-fiction, ça va, t'es à l'aise ou pas?
Ah oui.
Tous les blockbusters qui ont pu sortir et tous les nanars qui ont pu sortir, tu as vu énormément de vaisseaux spatiaux passer. On t'en offre un.
Le Serenity de Firefly, je n'hésite même pas, je veux l'équipage avec.
L'équipage,
ah ouais. Tous.
D'accord,
tous.
Mais dans ce cas, tu n'es pas le capitaine, il y en a déjà.
C'est pas grave.
Tu l'as en tant que touriste.
En tant que, tout à fait, une cabine.
On arrive à la fin de cette interview et comme je te l'avais dit, bah, c'est toi qui vas clôturer cette interview avec une musique de ton choix.
Alors moi en ce moment j'écoute surtout des BO et là je me suis remis deux BO, donc je vais laisser le choix, c'est soit la chanson phare de La La Land que j'aime beaucoup pour mettre la patate.
C'est City of the Light ou Light of the City.
Celle qui fait l'ouverture du film, qui est la première de la BO, ou plus jazzy, n'importe lequel de Whiplash.
D'accord.
Je ne sais pas si vous connaissez ce film sur le jazz et le...
De nom.
Qui est aussi le réalisateur de La La Land.
D'accord. Et qu'est-ce que c'est pour toi ? Qu'est-ce que ça représente, ces musiques-là ?
Les qualités d'une musique de film, c'est bon, à la fois qu'elle souligne l'action. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des musiques de film qui arrivent à parler du film sans le support visuel. Whiplash, on a une idée des thématiques qui sont abordées rien qu'en écoutant la BO. Bon, La Land est une comédie musicale, donc c'est plus facile, mais c'est vrai qu'on a déjà une idée de la notion de ce que va être le filigrane de l'histoire.
D'accord. Bah, merci beaucoup.
Grand merci à vous.
Grand plaisir.
Partagé.
Et puis à très bientôt, j'espère.